Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Baba Metzia, page 107, Daf Kuf Zain. Bonne écoute et bon limoud.
Rabban Shimon ben Gamliel, Mekel. Mais Rabban Shimon Gamliel, il est beaucoup plus coulant dans tout ce domaine. Il permet de transférer a priori l'argent des Sinapurim à d'autres fins charitables. Il permet également aux pauvres qui ont reçu de l'argent pour Purim de l'utiliser pour leurs besoins personnels, indépendamment de Purim. Et donc, a priori, il y aurait une contradiction entre la rigidité de Rabban Shimon ben Gamliel dans notre Mishnah et son laxisme par rapport au dinim de Tzedaka. Amar Abaye, Tama de Rabbi Shimon ben Gamliel, qui démarre. La raison de Rabban Shimon, c'est-à-dire Rabban Shimon Gamliel, elle est comme l'a dit monsieur Rav, c'est-à-dire ce qui est Rabba Bar Nachmani. D'Amar, en effet, mon maître a dit, Haïman de Nechale de Titborare, celui qui souhaite que son champ soit un culte, l'Israël Shatachite ve Shatasare. Qu'il fasse d'abord une plantation une année de blé, et ensuite l'année suivante avec de l'orge. Sous-entendu, c'est très mauvais pour le champ. Shatachite ve Shatare, ou encore, une année, il fasse des sillons dans une direction et l'autre année dans la direction perpendiculaire. Ceci ne va épuiser la terre que s'il n'a pas relabouré entre-temps. Mais si il a labouré et fait un deuxième labour, l'etlanba. Nous ne disons pas cela, c'est-à-dire il n'y a pas de risque d'épuisement de la terre. Nous regardons la suite de la Mishnah. Tevoua lo Israël akitnit. Si on lui a demandé d'y planter des céréales, il ne doit pas y planter des graminées ou des légumes. La Gemara va apporter un texte qui semble être en contradiction avec notre Mishnah. Matnele Rav Yehuda le Ravine. Rav Yehuda a enseigné à Ravine notre Mishnah. Tevoua Israël akitnit. Lui, il avait un texte dans lequel il disait, s'il lui a demandé d'y mettre des céréales, il a le droit, a priori, de modifier et d'y mettre des légumes. La Gemara s'interroge. Amar le Ravi Nadia Rav Yehuda. Là, Nantan, pourtant notre Mishnah, il dit autrement. Te vois, lo Yisraël Narkitit. S'il lui a demandé des céréales, il n'a pas le droit d'y mettre des légumes. Réponse. Amar le Lakashia. Il n'y a pas de contradiction. Ha, lan. Les textes que j'ai cités nous concernent, nous, les habitants de Babylonie, dans lequel nous sommes un pays creux, vallonné, où il y a beaucoup d'eau. Et donc on n'a pas peur que les légumes ou les graminées épuisent la terre, à cause de l'irrigation naturelle. Veha, Lehu, tandis que notre Mishnah parle aux habitants de l'Israël, qui est une terre qui est plus en hauteur, et où il y a moins de possibilités d'irrigation, et où effectivement le fait de mettre des légumes ou des graminées à la place des céréales pourrait épuiser la terre. Autre din que Rav Yehuda a enseigné à Ravine. Amarle Rav Yehuda le Ravine bar Rav Nachman. Rav Yehuda a dit à Ravine, fils de Rav Nachman, Ravine achi, Ravine, mon collègue, Hane tahle de Bekitna, ces chardons qui poussent dans les plants de lin, en bae mishum gezel. Il n'est pas interdit de les prendre. C'est-à-dire que celui qui vient les déraciner, ça ne s'appelle pas du vol, d'autant plus que ces chardons sont un genre de parasites par rapport au lin. Et ce qu'ils font comme tort à la récolte de lin, c'est supérieur à leur propre valeur. Donc celui qui les arrache, non seulement ne vole pas, mais en plus, ça, c'est un peu comme enlever des mauvaises herbes. Homme d'hôte à la gouline. Toutefois, si ces chardons étaient à la limite des rangées de lin, ou du champ de lin, et non pas au milieu, Yeshbaim Mishum Gezel, cela est interdit à titre de vol, probablement parce qu'ils ont été mis là-bas pour marquer la limite, et puis en plus parce que, étant donné qu'ils sont à l'extérieur, à la limite du champ, ils n'abîment pas le lin. Ve'im Hukshu Lezera. Et si les chardons en question sont déjà devenus très durs et que l'on peut les utiliser pour réensemencer du chardon, Même ce qui pousse dans un champ à l'intérieur du lin, il est interdit de les déraciner, ça s'appelle du vol. Maïtama. Pour quelle raison? Maï d'afsid afsid. C'est-à-dire qu'à ce niveau de croissance, ce qui a dû être commis comme dégâts par rapport au lin a déjà eu lieu. Et le fait de les arracher n'a plus aucun intérêt pour la récolte de lin. Et donc ça s'appelle du vol. Amar Rav Yehuda Ravin Bar Nachman. Autre enseignement que Rav Yehuda a dit à Ravin Bar Rav Nachman. Ravin Achi, mon collègue Ravin, mon ami. Hane, Dili Dilach. Sur mes arbres, il y a des fruits qui t'appartiennent. Le Dilach Dili. Et sur tes arbres, il y a des fruits qui m'appartiennent. En effet, nous avons des champs qui sont voisins. Et à la limite de nos deux champs, il y a des arbres. Et certains qui sont à la limite, dans mon terrain, leurs racines sont allées dans ton champ, et donc leur sève provient de chez toi, et inversement. Benahoug bené mitzra, et il y a une habitude pour les champs mitoyens, quand deux champs sont côte à côte, ilan ha notel kan, le kan, un arbre qui est penché d'un côté, les fruits appartiennent à ceux qui sont de ce côté-là, et celui qui sont penchés de l'autre côté appartient au propriétaire de l'autre champ. Et sous-entendu, il y a donc des arbres qui sont sur la limite de nos deux champs, dont les fruits sont à moi et inversement. La Gemara va amener une source pour cette pratique qui était coutumière entre les propriétaires de champs mitoyens. Deitmar, il a été enseigné, il a Naomed à la Metzar, lorsqu'un arbre est à la limite de deux champs, Amara va noter le kan ran, celui dont les racines sont dans l'autre champ, les fruits appartiennent au propriétaire de l'autre champ. Va noter le ran ran, et celui qui sont dans le premier champ appartiennent au premier champ. Ça c'est l'avis de Rav. Shmuel Amar Cholkin. Shmuel dit, on fait un partage. Ce qui veut dire que Rav Yehuda a dit que l'habitude de leur pays était de suivre l'opinion de Rav, non pas de partager par égal, mais de voir suivant la disposition des racines. La Gemara va objecter sur l'opinion de Rav, Métivé, à partir d'une braïta. Il a nommé dans la Metzar Yachloku. Lorsqu'un arbre est à la limite de deux champs, on partage les fruits. C'est l'opinion de Shmuel. Tufta de Rav. Voilà qui est contraire à ce qu'a dit Rav. La Gemara répond, Targuma Shmuel Aliban Rav. Shmuel lui-même a répondu pour défendre l'opinion de Rav. Bim male kola Metzar kulo. Il s'agit ici d'un cas où toute la limite du champ a été a priori entièrement remplie d'arbres. Et donc cela veut dire que les racines vont se trouver de part et d'autre. Et dans ce cas-là, il est normal de partager. La Gemara n'est pas d'accord avec cette explication. Iachi, s'il en est ainsi, maïl memra. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre? C'est tout à fait évident et logique que si les racines sont symétriquement de part et d'autre, qu'on va partager les fruits. La Gemara répond la tsricha. Il s'agit d'une nouveauté malgré tout dans le cas où de taletunel chadgisa. C'est-à-dire que la majorité de la charge de l'arbre se trouve d'un côté. Il est vrai que les racines de l'arbre sont de part et d'autre, mais il se trouve que les branches productrices, pour des questions, par exemple de vent qui a poussé les branches d'un côté ou pour toute autre raison, sont majoritairement d'un côté. On aurait pu penser qu'on en donne davantage au propriétaire du champ du côté duquel se trouvent les fruits, et là on nous dit non, on partage. Encore une autre question, Vakate, question supplémentaire, Maï le Memra, qu'est-ce que Breta vient nous apprendre? Étant donné qu'on suit toujours la répartition des racines, même si la charge est d'un côté, on sait bien qu'on va partager équitablement entre les deux propriétaires. La Gemara répond, Maou de Tema, tu aurais pu dire, de Amarle, que le propriétaire du champ sur lequel se trouve la majorité des fruits produits par l'arbre, disent à l'autre, plog ari, partage le long de la frontière. C'est-à-dire, tu prends les fruits qui sont au-dessus de ton champ, moi je prends ceux qui sont au-dessus de mon champ. Kamash malan, ceci, c'est Breta vient nous apprendre, d'Amarle, que le propriétaire du champ, sur lequel il y a peu de fruits, il peut lui dire, maïchazid de palag tari, depuis quand, qu'as-tu vu littéralement pour partager ainsi? C'est-à-dire, depuis quand on partage des fruits suivant une ligne verticale qui passerait au-dessus de la limite des champs. Plogari fait le partage d'après la largeur des champs, ce qui fait qu'on aura une part égale. Autre enseignement de Rav Yehuda Ravin, Amar le Rav Yehuda le Ravin bar Rav Nachman. Rav Yehuda a dit à Ravin, le fils de Rav Nachman, Ravin Achi, Ravin, mon ami, lo tisban ara, dismicha le mata. N'achète pas un champ qui est trop proche de la ville. Pour quelle raison? Amar Rabbi Abahu, Amar Ravuna, Amar Rav. Rabbi Abahu a dit au nom de Ravuna, qui le rapportait de Rav, Asur lo le Adam chez Amod Azde Chavero. Il interdit à un homme d'être debout près du champ de son prochain, Besha'a chez Omede Bekamotea, au moment où il y a tous les épis qui sont debout. C'est une question de Aïnara, ça peut susciter une jalousie et être mauvais pour le champ. Et donc il n'est pas bon qu'il soit proche de la ville pour pas qu'il y ait trop de passants. Agmar dit, Eni, est-ce possible? Ha! Et pourtant, Ashkerinu Rabbi Abba, le Talmidé de Rav, Rabbi Abba a rencontré les élèves de Rav, Amar Lehu, il leur a dit, Mayamar Rav Behanekre, qu'est-ce que Rav a enseigné à propos de ces versets, les versets de Dvarim, dans la Bracha, qui est dans Kitavo, Baruch Ata Bahir ou Baruch Ata Basade, Baruch Ata Bevorecha ou Baruch Ata Betsetecha, et la bénédiction dans la ville et la bénédiction dans le champ, et la bénédiction lorsque tu arrives, et la bénédiction lorsque tu pars. L'amoulet, les élèves ont répondu, Achiam Arav, voilà ce qu'a dit Rav, Baruch Ata Bahir, et la bénédiction lorsque tu viens en ville, Shehe Betecha Samuch le Betakneset, que ta maison soit proche de la synagogue. En effet, leur shul était à l'extérieur des villes, et donc il était bien qu'elle ne soit pas trop loin. Baruch Ata Basade, sois béni, et la bracha dans le champ, Shehihu Nechasecha Krovim Lair, que tes biens, c'est-à-dire tes champs, soient proches de la ville. Donc ça a l'air d'être le contraire. L'Agma continue à expliquer ce passouk avant de répondre à la question. Baruch Ata Bevorecha. Autre explication qui est donnée sur ce passouk. Et la bénédiction lorsque tu rentres, chez Lotim Tsaïchtecha Safek Nidda Bishad Biatra Minaderer. Que tu n'aies pas le désagrément de trouver ta femme qui est peut-être impure lorsque tu rentres de ton voyage, mais qu'elle soit certainement pure pour pouvoir mener votre vie conjugale tranquillement. Baruch Ata Betsetecha, et la bénédiction lorsque tu sors, chez Yehu, c'est Etzaem Echa, que ceux qui sortent de tes entrailles, donc tes enfants, Kemotecha, soient comme toi. Damar Lehu, Rabbi Abba a répondu au Talmidim de Rav, Rabbi Yochanan no amarachi. Rabbi Yochanan, il n'a pas interprété comme vous le dites. Au nom de Rav, et là, mais, Baruch Ata Bahir, et la bracha lorsque tu es dans la ville, c'est Betakise Samuch le Shulchanecha, que tes lieux d'aisance soient proches de l'endroit où tu manges. C'est-à-dire que tu ne sois pas obligé d'aller très loin pour tes besoins. En effet, à l'époque, les Batekise étaient à l'extérieur des villes. Aval Betakneset, l'eau, mais que la synagogue soit proche de ta maison, ceci n'est pas une bracha, peut-être parce qu'on a un mérite. Plus on doit s'éloigner pour aller à la synagogue, plus on a de mérite également d'y être allé. Le Rabbi Yochanan est amé. Et Rabbi Yochanan, il avait sa raison pour dire cela, d'Amar, car il a dit, Srar Pesiot Yesh, il y a un mérite particulier, une récompense pour tous les pas que l'on fait en allant à la shul. Baruch Ata Basade, suite de l'explication de Rabbi Yochanan, soit et la bénédiction dans le champ, Yehun Chasecha Meshulashim. Que tes biens soient divisés en trois. Chez Lish Mitvoua, dans tes récoltes, un tiers de céréales. Shlish Bezetim, un tiers d'olives. Ou Shlish Bifanim, un tiers de vignes. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un problème dans l'une ou l'autre des productions, il restera la troisième. Baruch Ata Bevorecha ou Baruch Ata Betsetecha. Et la bénédiction lorsque tu viens et la bénédiction lorsque tu pars. Que lorsque tu quittes ce monde, ce soit comme tu es venu à ce monde. Ma biatra laolam belochet, de même que tu es venu dans ce monde sans avoir de faute, qu'également lorsque tu sors de ce monde, tu n'es pas de faute. Nous avons terminé le Hamoud Aleph du Daf Kuf Zayin. Nous passons donc à la suite de cette sugya.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tu n'es pas de faute. Nous avons terminé le Hamoud Aleph des Daf Kuf Zayin. Nous passons donc à la suite de cette sugya dans le Hamoud Bet. La Gemara répond, l'okashia, il n'y a pas de contradiction entre ce qu'a dit Rav par rapport à la proximité des champs de la ville et le problème d'Aïnara. Ha! Lorsque Rav il a dit qu'il y a une bracha, que le champ soit proche de la ville, dim haddar le shura veritka. Il s'agit qu'il a entouré son champ avec une barrière bien occulte qui permet de cacher les récoltes aux yeux des passants. Ha! Tandis que Rav Yehuda dit à Rabin de ne pas acheter un champ proche de la ville, la mahadar le shura veritka, qu'il n'y a pas une muraille et une barrière qui sont telles que l'on empêche la vision. Donc il n'y a pas de problème. La Gemara passe à une autre dracha concernant le Aïnara et qui émane de Rav. Le pasouk du 7e chapitre de Dvarim qui dit Vesir Hashem Mimcha Kol Holi, Hashem écartera de toi toute maladie. Amar Rav, Rav il a dit Zou Aïn, c'est tout ce qui est lié au mauvais œil, qui peut entraîner, voyez-nous, toutes sortes de maladies. Rav le Tamé, Rav suit sa propre théorie de Rav Salik le Bek Kivré. Rav avait l'habitude, non, il était allé une fois dans un cimetière, Avad Maïde Avad, et il a fait là-bas quelque chose. D'après les Mefarshim, il s'agissait de faire par des moyens particuliers l'examen de la cause de la mort de ceux qui étaient enterrés là-bas. Est-ce qu'ils étaient morts à l'âge normal ou est-ce que c'était le Aïnara qui leur avait raccourci la vie? D'autres expliquent que c'était par des rêves ou bien encore en y plantant des arbres qu'ils pouvaient savoir si, oui ou non, ceux qui étaient morts de mort naturelle ou s'ils avaient été les victimes du Aïnara. Amar, et ensuite, après avoir fait cette expérimentation, il a dit Tishin ve Tisha Aïnara, Ra'a. 99 sur 100 meurent du Aïnara. Prématurément. Et un seul sur 100 est mort de mort naturelle. Autre explication sur Pasuk. Shmuel Amar, Zeharouach. Lorsqu'on parle de Hachem écartera de toi Kol Choli, Vesir Hachem Imcha Kol Choli, c'est le vent. Car le vent peut générer toutes sortes de causes de mortalité. Shmuel est Amé. Shmuel suit sa propre chita, Damar Shmuel à Kol Barouach. Tout dépend du vent. Alma demande, Veli Shmuel, Ha, Ika, Aruge, Malchut. Pourtant, Shmuel doit reconnaître que certaines personnes ne meurent pas pour des questions de maladie, ceux qui ont été condamnés à mort par les autorités. L'Agma répond, Anachname, Ilav, Zika, Avdeleu, Samad, Chaye. Eux également, s'il n'y avait pas eu des problèmes de l'infection causée par le vent dans leur plaie, on aurait pu leur trouver un médicament et les faire survivre. Troisième explication sur Pasuk. Rabbi Hanina Amar, Zou Sina. Rabbi Hanina dit, qu'est-ce que c'est Hachem enlèvera de toi Kol Choli, la cause de toutes les maladies? C'est le froid. Damar Rabbi Hanina Kol Bidei Shamayim. Rabbi Hanina disait en effet, toutes les punitions qui arrivent sur l'homme ont été décidées par Akadosh Baruch Hu directement, Chutz Mitzinim Pachim, sauf des maladies qui viennent à cause d'un vent froid, qui peuvent venir par la faute de la personne. Si une personne se met et s'expose au froid et à l'humidité, qu'elle devient malade, on ne peut pas dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Chez Nehemar, en effet, il est marqué dans le 22e chapitre de Michelet, Sinim Pachim Bederech Ikesh. Les vents froids, les pièges de la froidure se trouvent sur le chemin de celui qui est tordu. Shomer Nafsho Yichak Mem. Et celui qui veut protéger sa personne s'éloignera de ses causes de maladie. Autre explication, Rabbi Yossi Bar Hanina Amar, Zou Tsoa. Rabbi Yossi Bar Hanina dit, ce sont ce qui sort en excès, soit du nez, soit de l'oreille. Damar Mar, en effet, on a enseigné, Tsoa Tachotem et Tsoa Tahozen. Si il y a un excès d'excrétion qui viennent du nez ou qui viennent de l'oreille, Rouban, elles sont nombreuses, cachées, c'est mauvais pour la santé. Miutan, s'il y en a un peu, Yafé, c'est bon pour la santé. La Gemara amène encore une autre explication dans ce passage. Rabbi Elazar Amar, Zou Mara. Il dit, il s'agit d'un excès de fiel, de bile. La Gemara amène une preuve à cette théorie de Rabbi Lazar d'une breita. Tanya Namiachi, une breita enseigne également la même chose. Mahala Zouamara. C'est marqué dans le pasouk de Béchalach, du 23e chapitre de Shemot dans Mishpatim. Vasiroti Mahala Mikirbecha. J'enlèverai la maladie de l'intérieur de toi. Il s'agit de la bile. V'lamanikret Shema Mahala. Pourquoi la bile est-elle appelée Mahala? Shehi Mahala Kol Gufo Shaladam. Parce qu'elle peut rendre malade la totalité de la personne de l'homme. Davar Acher, autre explication. Mahala She Shmonim Ushlosha Cholaim Teluim Bamara. Il y a 83 maladies qui dépendent de la bile, dont parce que la gématria de Mahala, la valeur numérique, même 40, chet, 8, lamed, 30, he, 5, vous additionnez, vous trouvez 83, le roulan, et toutes ces maladies, pat shacharit bemelach, le kiton shelmaim, si on mange le matin tôt du pain avec du sel et une cruche d'eau, mevatlatan, cela annule tout le risque de ces maladies. Rashi ajoute qu'on parle d'eau pour celui qui n'a pas de vin. Mais s'il a du vin, c'est meilleur. La Gemara va expliquer quelles sont les qualités et les avantages du fait que l'on mange du pain tôt le matin, le petit déjeuner, comme on dit aujourd'hui. Tanou Rabanan, nos maîtres ont enseigné. Socha Sardvarim Nemru Pat Shacharit. 13 qualités sont attribuées au repas du matin. Matselet Minachama. Elle met l'homme à l'abri de la fièvre. Minatina, du froid, ou minazikin et des vents agressifs, ou minamazikin et des démons, ou markimatpeti, elle rend intelligent ceux qui ne le sont pas, du fait qu'il n'est pas obsédé par la faim, vezochebdin, il a des chances de l'emporter s'il a un différend avec autrui, toujours parce qu'il a l'esprit clair, il a de bons arguments, l'ilmot Torah, ça lui aide à apprendre la Torah ou le lamed et à l'enseigner. Ou Dvarav Nishmaïn, lorsqu'il veut convaincre les gens, ses arguments sont bien entendus. Le Talmudo Mitkaim Beyado, il retient ce qu'il apprend. Ven Besarum Ale Evel, son corps ne dégage pas de transpiration ou de mauvaise odeur. Benizkak, le Ishto, Venomitave Lishacheret, il a une relation avec sa femme avant de faire ses affaires le matin. Ce qui est un peu étonnant, mais il s'agit de cas où sinon il a des mauvaises pensées. Et cela évite ensuite qu'il ait des mauvaises pensées vis-à-vis d'autres femmes. Littéralement, il ne désire pas d'autres femmes. Cette alimentation du matin tue les parasites, chez Bibne Meaim, qui sont dans les intestins. Yeshomrim, d'autres disent encore Afmotsi et Akina ou Machnis et Av. Cela fait partir la jalousie et au contraire stimule l'amour d'autrui. Étant donné qu'il a mangé, il est de bonne humeur, et donc il n'a pas ses mauvaises pensées, il est prêt à être en bonne relation avec tout le monde. La Gemara recherche d'où on a pu trouver que le repas du matin est tellement important. Amar le Rabba, le Rava bar Marie. Rabba a dit à Rava, fils de Marie. Mena hamilta d'amrinche, d'où vient cette chose que les gens ont l'habitude de dire, Shitin reiteraout, l'omatou le gavra de mitzafra karach. On peut envoyer 60 coursiers, ils n'arriveront pas à rattraper un homme qui a bien mangé le matin. C'est le proverbe. Ve amrou rabanan. Et les chachamim ont dit, Hashkem ve chol bakaitz mipnei chama. Lève-toi tôt et mange en été à cause de la chaleur pour échapper aux problèmes causés par l'excès de chaleur, ou vachoref, et en hiver, mipnatsina, pour échapper aux problèmes causés par l'excès de froid. Réponse de Rava Barmari, Amarley lui a répondu, dirtiv, comme il est écrit dans le 49e chapitre de Isaïe, lo yir avu, velo yitzmaou, velo yakem, sharav vashamesh. ils ne seront pas affamés, ils ne seront pas assoiffés, et ils ne seront pas les victimes de la chaleur et du soleil. Autrement dit, comment comprend-on ce verset? Pourquoi le soleil et la chaleur ne les frapperont pas? Kevan loir avu loitzmo, parce qu'ils n'ont ni faim ni soif, c'est-à-dire parce qu'ils ont mangé le matin du pain avec du sel et qu'ils ont bu une cruche d'eau. Autre source possible. Amar le Rabba a dit à Rava Barmari. Atamar Tlimatam, toi tu me dis que ça vient de là. Vani aminalach meacha. Moi je vais te dire d'un autre verset, qui est dans le 23e chapitre de Shemot, toujours dans Mishpatim. Va'avadetem et Hashem elokechem, uverach et lachmecha et memecha. Vous serez au service de Hashem votre Dieu, et il amènera la bénédiction dans ton pain et dans ton eau. Et on explique comme cela, Vavatem et Hashem elokechem, zukriat shema utfila. Vous serez au service d'Hachem votre Dieu, c'est la lecture du Shema et la prière, qui sont appelées Avoda. Uverach et lachmecha et memecha. Il bénira ton pain et ton eau. C'est du pain trempé dans le sel. Et certains font remarquer que l'achmecha comporte les lettres du mot melach, qui veut dire le sel, le kiton shel maim, et la cruche d'eau. Mikan ve'elach, après avoir fait sa tchila et avoir mangé et bu, il est marqué va'asiroti mahala mikirvecha, j'écarterai la maladie de toi. La Gemara va maintenant passer au problème des terres qui se trouvent proches d'un canal ou d'un fleuve d'eau naturel, d'un cours d'eau naturel. Amar le Rav Yehuda le Ravada Mashochaha. Rav Yehuda a dit à Ravada, qui était un géomètre qui mesurait les terrains, Lot Zalzel de Mishrata. Tu ne dois pas mépriser le travail d'arpentage. De Chol Purta au Purta, Chazid le Kurkema Rishka. Chaque petite parcelle de terrain, on peut y planter du safran. Il s'agit d'un safran de haute qualité et qui a un prix très élevé. Et si tu ne fais pas attention à ton travail, la perte que tu peux causer en évaluant faussement la surface d'un terrain peut être très grande. Autre enseignement de Rav Yehuda concernant l'arpentage des terrains. Amar le Rav Yehuda le Ravada Mashocha. Toujours au même géomètre, il a dit Arba Amot de Anigra. Les 4 amot, donc environ 2 mètres, que les propriétaires des champs ont l'habitude de laisser non ensemencés entre leurs terres et les canaux, pour éviter que le bord du canal ne s'effondre, Zalzelbehu, ne soit pas trop regardant sur leurs mesures. Danahara, mais lorsqu'il s'agit d'une berge d'un fleuve, Lotim Shahanuklal, ne le compte pas du tout. Il suffit de laisser une petite parcelle pour qu'il n'y ait pas d'effondrement des berges du fleuve. C'est ainsi que Rashi l'explique. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Dagmar va expliquer pourquoi cet enseignement. Rav Yehuda le Tamer, Rav Yehuda suit sa propre théorie. D'Amar Rav Yehuda, en effet, Rav Yehuda a dit Arba Amot da Nigra, les 4 Amot, les 2 mètres que l'on met près des canaux d'irrigation, l'Ivne à Nigra. Ceux-ci sont réservés aux propriétaires des champs qui sont proches de ces canaux et qui utilisent pour l'irrigation. Et donc, puisque ça ne concerne que certains particuliers, qui peuvent ne pas être trop regardants sur les dégâts qui sont commis. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de faire un arpentage trop strict. De Anahara, tandis que ceux qui sont au bord du fleuve, de Roule Alma, ceci appartient à tout le monde. C'est un terrain général, on ne peut pas privatiser les berges des fleuves. Et donc le tort qui serait commis en limitant la largeur disponible au bord du fleuve serait un tort général qui n'est pas récupérable. Autre enseignement concernant les berges d'un fleuve. Machriz Rabbi Ami. Rabbi Ami proclamait Melo kitfe nagade mitre vre nara kutsu. La pleine largeur des épaules de ceux qui halent les bateaux des deux côtés de la rivière ou du fleuve, Kutsu, vous devez les coupé. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a l'habitude de tirer les bateaux par des hommes qui marchent le long des rives sur les chemins de halage, s'il se trouve qu'il y a des arbres ou des bosquets à cet endroit-là, la loi autorise a priori de les couper pour ne pas faire obstacle à ceux qui traînent les bateaux avec des cordes sur ces sentiers. Rav Nathan bar Hoshaya, kat shitsa ramata. Rav Nathan, le fils de Hoshaya, il disait carrément qu'il fallait couper une largeur de 16 amot, 8 mètres, ce qui est considéré comme la largeur normale d'un chemin destiné au passage de tout le monde, ce qu'on appelle Rasut Arabim. Atu alea bene Mashronia, vedafnu. Lorsqu'il a fait cela, les habitants de la ville de Mashronia, qui étaient les propriétaires de cette forêt que Rav Nathan bar Hoshaya avait coupée, ils lui ont donné des coups. La Gemara va expliquer ce qui s'est passé. Où ça va, Kirshut Arabim? Rav Nathan pensait qu'on doit appliquer la même règle que le Rashut Arabim, mais lohi. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. Hatam. Là-bas, en ce qui concerne le Rashut Arabim, ben, inan kulayai, on a besoin d'une telle largeur. Pourquoi? Parce que les gens passent là-bas avec leur chariot. Ha. Ici, en ce qui concerne les bords du fleuve et les chemins de halage, mishumam tuchéachlenu, il s'agit uniquement de pouvoir tirer les cordes des bateaux. Kimlo kitfe nagade sagi. La pleine largeur des épaules des haleurs est suffisante et non pas 16 amot. Autre histoire concernant ce type de problème. Rabba bar Ravuna havale haou abba agudanara. Rabba, le fils de Ravuna, possédait une forêt qui était au bord d'un fleuve. Amroulé, les haleurs lui ont dit, n'écoute ma, je vous en prie, coupez vos arbres afin que nous puissions circuler. Amarlo, il leur a répondu, Kutsui la eve tatae. Veada en écoutes ana. Commencez par couper les forêts qui sont avant, en amont et en aval de la mienne, et après je serai d'accord de couper la mienne. Mais tant que les autres sont encore là, je n'ai pas de raison d'enlever la mienne qui ne vous dérange pas vraiment. C'est théorique. Nagmara s'étonne, echi avedahi. Comment est-ce que Rabba Baravuna a pu répondre ainsi? Veactif, pourtant il est écrit dans le deuxième chapitre de l'un des 12 prophètes de Tréassar, Tsaphania. Itkoshu, varkoshu, c'est-à-dire cherchez d'abord les torts que vous avez et réparez-les avant de demander aux autres de mettre fin aux leurs. Vama Resh Lakish. Resh Lakish a interprété ce verset. Kshot atzmecha, embellis-toi toi-même d'abord. Vacharka kshot acherim, ensuite demande aux autres de s'embellir. C'est-à-dire que Rabba bar Ravuna ne devait pas faire dépendre son accord du fait que les autres enlèvent également leur forêt. L'Agmara répond à Tam. Là-bas, dans le cas de Rabba bar Ravuna, la forêt qui était en amont et en aval, Abba de Beparzak Rufila, c'était une forêt qui appartenait au seigneur local, qui était non-juif, c'était un perse, et il savait qu'il n'allait jamais accepter de couper ses arbres pour laisser passer des haleurs juifs. Et Amar, c'est pourquoi il leur a dit, « Ikaitsu kayatsna ». Si l'autorité locale non-juive coupe leurs arbres, moi je couperai les miens. Mais « Ilokaitsu », mais s'il ne le coupe pas, « Amai ekuts », pourquoi est-ce que vous voulez que je détruise ma forêt alors que ça n'a aucun intérêt ?« I mamtechelehu ashlayu », si les haleurs peuvent se débrouiller pour tirer leur cordage au bord du fleuve en amont et en aval du fleuve, Mistagelehu qui se débrouille. Nous tournons la page, puisque nous abordons maintenant le Daf Kouvre.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi, quotidiennement en vidéo.